Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous sommes enthousiastes de vous retrouver sur les ondes de Transistor pour un second épisode de Maths et de Mots, le podcast du dialogue entre maths et philo. Bonjour Aurélien.
Bonjour Smila.
Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est l'intuition mathématique. Grande question. Avant d'entrer dans le sujet, on pourrait déjà esquisser une définition générale. L'intuition, c'est l'action de deviner, pressentir, comprendre quelque chose d'emblée, sans analyse, sans raisonnement ou sans réflexion. Dès lors, on se pose la question de la place que peut avoir cet élément irrationnel ou du moins non rationnel dans la construction et la compréhension des mathématiques. Pour commencer la discussion et se mettre d'accord sur le sens de la notion, est-ce que vous auriez une définition plus fine, plus spécifique aux mathématiques à proposer ?
Alors, je ne sais pas si j'ai une définition, mais disons que j'aimerais commencer en citant quelques lignes écrites par Henri Poincaré dans La valeur de la science, paru en 1905. Et en fait, je recommande la lecture de tout le premier chapitre qui a justement pour titre « L'intuition et la logique en mathématiques ». Donc voici ce qu'il écrit. « Il est impossible d'étudier les œuvres des grands mathématiciens, et même celles des petits, sans remarquer et sans distinguer deux tendances opposées, ou plutôt deux sortes d'esprits entièrement différents. Les uns sont avant tout préoccupés de la logique. À lire leurs ouvrages, on est tenté de croire qu'ils n'ont avancé que pas à pas, avec la méthode d'un Vauban qui pousse ses travaux d'approche comme contre une place forte, sans rien abandonner au hasard. Les autres se laissent guider par l'intuition et font du premier coup des conquêtes rapides, mais quelquefois précaires, ainsi que de hardis cavaliers d'avant-garde. » Plus loin, il continue. « Chez nos étudiants, nous remarquons les mêmes différences. Les uns aiment mieux traiter leurs problèmes par l'analyse, les autres par la géométrie. Les premiers sont incapables de voir dans l'espace, les autres se lasseraient promptement des longs calculs et s'y embrouilleraient. Les deux sortes d'esprits sont également nécessaires au progrès de la science. Les logiciens, comme les intuitifs, ont fait de grandes choses que les autres n'auraient pas pu faire. Qui oserait dire s'il aimerait mieux que Weierstrass n'eût jamais écrit ou s'il préférerait qu'il n'y eût pas eu de Riemann ? L'analyse et la synthèse ont donc toutes deux le rôle légitime. » Donc encore une fois, je recommande vivement la lecture de ce chapitre, là où j'ai pris un peu le début, un peu la fin. Et dans les dernières lignes, il synthétise les choses en une ligne. Ainsi, la logique et l'intuition ont chacune leur rôle nécessaire. Toutes deux sont indispensables. La logique qui peut seule donner la certitude est l'instrument de la démonstration. L'intuition est l'instrument de l'invention. Alors, pour répondre un peu à la question, donc, moi je dirais plus volontiers qu'il y a plusieurs sortes d'intuitions, que certains mathématiciens ont naturellement une fibre plus géométrique, pendant que d'autres ont une fibre plus algébrique ou plus analytique ou plus probabiliste, voire autre chose. Ensuite, vient le langage dont on a parlé la dernière fois, le langage mathématique qui permet justement de capturer ces intuitions et de définir sans ambiguïté les objets, en l'occurrence mathématiques, dont on va ensuite parler, puisque les mathématiciens aiment parler sur des choses bien définies, sans ambiguïté. Et peut-être on peut faire un parallèle avec le sport pour discuter de cette intuition, mais bon, prenons un sport quelconque, bon, disons le tennis ou pensons au foot. Bon. Cela paraît assez clair, à mon avis, qu'un joueur, à un instant donné, va avoir une certaine intuition du jeu, pour placer la balle à tel endroit ou être capable de décaler ses partenaires, créer de l'espace, ben je pense qu'une grande part de cette intuition est le résultat d'un long travail, que ce soit pour le sportif ou le mathématicien. Et sans doute, c'est comme ça dans pas mal d'activités. Bien, pas mal d'activités d'ailleurs. Qu'en est-il en philo ? Y a-t-il une intuition philosophique ?
En fait, je pense que cette question peut prendre deux directions. Parce que d'un côté, ça peut être la question du sens philosophique qu'on peut donner au concept de l'intuition, et de l'autre côté, la question de la manière dont on peut avoir des intuitions dans le champ de la philosophie. Donc d'abord, en philosophie, l'intuition prend un sens un peu particulier, qui renvoie avant tout au champ de la connaissance. L'intuition, c'est d'abord une manière de connaître. C'est pas tant deviner, pressentir ou sentir quelque chose, que le fait de connaître de manière immédiate une chose qui se présente avec évidence. En général, on oppose la connaissance intuitive à la connaissance discursive, par raisonnement, par déduction, par interprétation, etc. Même si cela ne veut pas dire que l'intuition s'oppose à ces modes de raisonnement directement. Ensuite, si on prend le point de vue des intuitions philosophiques, je pense que cela peut recouvrir le fait de sentir des tensions entre les concepts, de voir assez rapidement des tensions sous-jacentes à une question ou de comprendre aisément la structure argumentative d'un texte. Mais je ne sais pas trop si on peut appeler ça des pratiques intuitives dans le sens où ça vient avec beaucoup de travail et surtout beaucoup d'habitudes des exercices philosophiques comme, la dissertation, l'explication de texte, etc. Mais je trouve que l'intuition, ça reste un concept en fait assez abstrait et difficile à décrire. Pour tenter de mieux le comprendre, on pourrait peut-être se demander comment cette intuition se manifeste. Si certains résolvent facilement des problèmes de géométrie, d'autres d'analyse ou encore d'arithmétique, etc., on en vient peut-être à penser qu'il y a des intuitions mathématiques différentes, ou du moins certaines branches des mathématiques qui peuvent être plus parlantes que d'autres pour un individu donné. Est-ce que vous pensez qu'il y ait plusieurs formes d'intuitions mathématiques et quelles seraient-elles ?
Oui, c'est exactement ça, je pense. Je dirais même qu'il y a plusieurs formes, je dirais plutôt de formes de pensée mathématique différentes. C'est-à-dire une tendance à penser les problèmes d'une certaine façon plutôt qu'une autre. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de fibres plus géométriques, analytiques, etc. Mais je suis convaincu que les mathématiciens progressent tous grâce à leur imagination et leurs intuitions. Simplement, chacun a sa fibre et donc développe des intuitions dans sa fibre. Bon, prenons par exemple un article de recherche où l'auteur démontre un théorème, disons, au prix de plusieurs dizaines de pages contenant des énoncés techniques. On peut se demander comment c'est possible d'en arriver là, quoi. Et clairement, ce n'est pas en raisonnant ligne après ligne que l'auteur a pu construire toute cette démonstration. Pas plus qu'un écrivain, j'imagine, enfin, je ne suis pas écrivain, mais j'imagine qu'on n'écrit pas un roman phrase à phrase sans avoir un plan d'ensemble, des grandes idées, si ce n'est globalement, au moins localement sur certaines parties, quoi. Bon, de même, celui qui souhaite comprendre un théorème dans un article de recherche, par exemple s'il veut lire ce fameux article qui fait plusieurs dizaines de pages, ce n'est pas en lisant ligne à ligne et en vérifiant que tout s'enchaîne logiquement qu'on va comprendre. D'ailleurs, un livre de maths, ça ne se lit pas linéairement. Quand on prend un livre de maths, en général, on l'ouvre à un certain endroit, on va dans un sens, dans un autre, etc. Donc, on cherche d'abord à comprendre les idées directrices, le plan général du tableau. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on peut se plonger dans des détails plus techniques pour vérifier que ça marche bien. Et l'intuition et la familiarité qu'on a des objets mathématiques comptent alors beaucoup. Elles vous permettent d'être convaincu rapidement que quelque chose qu'affirme l'auteur est correct. Et donc, du coup, vous pouvez sauter plein de pages en vous disant « Ok, bon, ben ça, de toute façon, j'y crois. Donc là, c'est les détails techniques pour démontrer, mais je peux avancer. » C'est pour ça qu'un livre de maths, ça ne se lit pas de manière linéaire. Après, bien sûr, il faut vérifier les détails techniques, mais ça vient dans un second temps. Et donc, j'aurais envie d'imaginer que peut-être chez les philosophes aussi, il y a différentes formes de pensée et des manières différentes de développer des intuitions, non ?
Oui, si on entend les intuitions comme des idées premières, oui, c'est sûr, il y a, comme en mathématiques, différentes manières de procéder. Je peux peut-être vous en citer quelques-unes. Pour avancer dans la réflexion, plusieurs voies sont possibles. Avant tout, si on partage un peu ma vision de la philosophie comme une discipline qui repose beaucoup sur des définitions, une bonne manière de procéder serait de voir sur quelle définition notre intuition ou notre idée première repose. De là, on peut voir symétriquement les définitions qu'elle a exclues de son champ. Ça permet déjà de gagner beaucoup en précision. D'un point de vue peut-être plus logique, parce que la philo, c'est pas si illogique que ça... Il peut aussi être utile de formuler des objections contre son idée, comme ça on est poussé à argumenter en faveur de notre intuition, et parfois on peut aussi se rendre compte de ce qui coince d'un point de vue logique, alors même que ça pouvait sembler évident si on regardait l'intuition de manière un peu rapide. Dans ces cas-là, on peut par exemple imaginer un adversaire. On peut aussi avancer avec des cas limites, c'est-à-dire voir jusqu'où une idée va tenir la route, par exemple, ce qui peut permettre aussi de raisonner sur les implications de cette idée-là. Et on peut bien sûr passer par l'analyse d'expériences, qu'elles soient lues ou vécues, scientifiques ou même ordinaires. Et c'est aussi une bonne manière de circuler entre idées abstraites et conséquences concrètes. Et de manière plus générale, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça peut vraiment aider de faire circuler une idée d'un domaine à l'autre, d'en examiner les concepts, la logique, les implications et les applications concrètes. C'est un peu ces différentes manières de penser que vous évoquiez tout à l'heure. Et à propos des manières de penser, justement, j'avais envie de vous poser une question sur la manière de procéder en géométrie, qui est votre domaine de spécialité. Pourriez-vous nous parler plus spécifiquement de l'intuition visuelle ? Est-ce que vous avez des exemples de moments où l'intuition a joué un rôle important dans la résolution de problèmes géométriques ?
Ok, alors, très bien. Alors, je ne vais pas parler de mon expérience, mais plutôt d'un moment célèbre, enfin, qui est assez connu. Donc, justement, je vais reprendre Poincaré. Et je vais continuer avec une citation de lui, qui est cette fois dans Science et Méthode, un autre ouvrage qu'il a écrit, cette fois en 1908, et dans lequel, dans cet ouvrage, donc, il écrit carrément un chapitre, cette fois sur l'invention mathématique. Donc, je recommande vivement le chapitre, mais je vous cite le passage qui est assez célèbre, enfin, chez les mathématiciens en tout cas, certains. Disons que voilà ce qu'écrit Poincaré. À ce moment, je quittais Caen, où j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification, je n'en aurais pas eu le temps, puisque à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée, mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Alors bien sûr, des moments comme celui que décrit Poincaré ne se produisent pas tous les jours, ni pour Poincaré, ni pour le mathématicien standard. Ça peut arriver. En général, quand on travaille sur un problème, on avance par petites touches. On se laisse guider justement par nos intuitions qui nous encouragent à explorer telle ou telle direction, à essayer de calculer une chose plutôt qu'une autre. Et comme nos intuitions ne sont pas toujours les bonnes, on explore pas mal de pistes avant d'en attraper une plus prometteuse. Il me semble me souvenir avoir lu quelque part que chez Kant, la notion d'intuition est assez différente de l'usage courant qu'en font les mathématiciens. Pourriez-vous nous éclairer un peu ?
Bon, je ne suis pas du tout experte de Kant, mais il me semble que l'intuition, pour lui, se rapproche un peu plus du sens philosophique qu'on avait évoqué tout à l'heure. C'est moins le fait de deviner par touche, de pressentir, d'explorer, qu'un mode de connaissance, une connaissance immédiate des choses sensibles. Et c'est donc une forme de réceptivité. Alors l'intuition nous donne à connaître les objets directement, sans raisonnement, et elle porte sur des objets singuliers, non pas sur des concepts généraux. Elle ne nous élève pas encore au-delà du particulier. Et c'est pour ça qu'on peut opposer dans ce système intuition et concept, puisque l'intuition va nous donner cet objet-ci, ce triangle-là particulier, de manière immédiate et sensible, dans l'espace et dans le temps, par exemple si on l'imagine ou si on le dessine. L'intuition, c'est par quoi cet objet va se rendre présent à notre esprit. Le concept, lui, permet de penser l'objet de manière générale, il va résulter d'une classification, d'une définition, et va être produit, lui, par l'entendement. Ce qui est aussi intéressant sur l'intuition chez Kant, dans sa philosophie critique, beaucoup de choses reposent sur cette distinction entre, d'un côté, l'intuition sensible, qui est pour lui la source de la connaissance des phénomènes dont les êtres humains, eux, disposent, et de l'autre côté, l'intuition intellectuelle qui pourrait, elle, atteindre les choses en soi. Cette deuxième intuition, l'homme en est privé, elle ne nous appartient pas, mais elle n'appartiendrait qu'à Dieu, qu'à l'être suprême. Donc, c'est une intuition, en fait, globalement, pour résumer, qui prend vraiment son sens dans la question de la connaissance. Pour revenir au problème, on pourrait réancrer l'intuition dans le processus plus global, également de la résolution des problèmes mathématiques. L'intuition paraît d'abord initier une tentative de solution, mais parfois aussi jouer le rôle du garde-fou au moment de la vérification des résultats, ce que vous évoquiez tout à l'heure. À quel moment l'intuition peut-elle ou doit-elle intervenir, et est-ce qu'on peut résoudre un problème sans l'aide de l'intuition ?
En fait, je pense que l'intuition est à l'œuvre en permanence quand on réfléchit sur un problème, mais qu'elle se manifeste quelque part à des moments un peu stratégiques. C'est-à-dire que les mathématiciens passent leur temps à essayer de se forger des images mentales plus ou moins précises, à chercher des analogies entre le problème sur lequel ils travaillent, des choses plus ou moins précises qu'ils ont en tête, pour les avoir entendues en conférence, en séminaire. Et quand vous dites « bon, ça doit être vrai, qu'est-ce que j'en déduis alors ?» Bon, ça, c'est clairement votre intuition qui se manifeste et qui vous dit « ok, bah, justement, ça j'y crois ». On peut passer, faire semblant que c'est bien vrai, et puis voir qu'est-ce qu'on peut en déduire et avancer. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, quand on tourne rapidement les pages d'un livre, c'est parce que, ça, vous y croyez, donc vous pouvez avancer. Bien sûr, il faudra y revenir tôt ou tard, mais vous pouvez avancer tout d'un coup plus rapidement. Mais bien sûr, comme je disais, il arrive que l'intuition nous trompe de temps en temps.
Mais si on considère, pour être pas trop défaitiste, que l'intuition n'est pas quelque chose d'à tout jamais donné, qu'elle ne naît pas, qu'on ne naît pas avec ou sans intuition, qu'on n'est pas fait ou pas fait pour les maths par exemple, et qu'elle peut évoluer, s'améliorer dans le temps, comment est-ce qu'on peut travailler sur son intuition? Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui chercherait à développer une bonne intuition mathématique?
Je lui conseillerais de faire des maths. C'est-à-dire, je vais pas dire de faire des exercices, mais enfin de faire des maths, d'avoir un raisonnement. Je pense que tout ça, c'est une question de métier, comme dans tous les métiers, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui, enfin, les sportifs de très haut niveau, etc., ils ont sûrement une appétence, et puis dès le départ, des qualités physiques, peut-être pour faire ce sport. Mais après, c'est une question de travail, quoi. Que ce soit à l'école ou dans le monde de la recherche, à mon avis, la seule et unique manière de développer ses capacités mathématiques, c'est d'en faire. Et faire des maths, ça veut dire sécher suffisamment longtemps sur un problème. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des problèmes extrêmement difficiles, non résolus, etc. Il y a des choses à tous les niveaux, que ce soit pour celui qui veut faire des maths en amateur, qui a une autre vie par ailleurs, qui veut juste... ou le mathématicien professionnel. Enfin bref, il y a des problèmes à tous les niveaux. Il faut prendre un problème et puis et se coller à ce problème et de manière un petit peu obsessionnelle. On explore des pistes qui n'aboutissent pas et c'est comme ça qu'on finit par développer des intuitions et se faire de meilleures idées, quoi.
Donc l'intuition est vraiment tributaire de l'habitude, si j'ai bien compris.
De l'habitude, en tout cas, c'est mon avis. De l'habitude, et puis de travailler la matière, quoi. Il faut travailler la matière, et voilà, je pense que c'est pareil pour tout le monde, même pour un artisan, etc. Par exemple, je pense à un menuisier, on a une table en bois devant nous, à mon avis. Celui qui travaille le bois tous les jours, quand il voit un nouveau morceau de bois arriver, il a une certaine intuition de comment le matériau va se comporter. Et comment il va pouvoir le travailler, savoir dans quel sens prendre le bois, etc.
On a commencé à esquisser l'idée que l'intuition n'est qu'une partie du processus mathématique. Est-ce que c'est parce que les intuitions qu'on a ne sont pas toujours fiables, ce qui paraît peut-être assez évident, mais de manière plus générale, quelles sont les limites que vous voyez à l'intuition?
Comme je disais tout à l'heure, en maths, tôt ou tard, il faut démontrer ce qu'on affirme. C'est quand même une des parties très importantes de la discipline. La démonstration, elle permet de statuer les choses, de statuer sur les choses en quelque sorte, et donc de valider vos intuitions. Et de même que le scientifique expérimentateur, tôt ou tard, il doit se confronter avec la réalité et valider ses intuitions qu'il a formulées sous forme d'hypothèse, mais enfin, à un moment donné, la nature va parler. Donc, je dirais que c'est quand on commence à réfléchir sur un problème qu'on a au départ, on n'a pas beaucoup d'intuition des choses. C'est comme se retrouver, je prends une image un peu, dans une pièce qu'on ne connaît pas, sans lumière, les yeux fermés, si vous voulez. Eh bien, dans un premier temps, on va se cogner en permanence au mobilier, à droite, à gauche. On avance à tâtons, on renverse des choses. Et puis, peu à peu, à force de passer du temps dans la pièce, on acquiert de petites idées sur la géométrie de la pièce, sur ce qu'il y a dedans, sur les meubles, etc. Et on se familiarise. Et donc, c'est comme ça qu'on développe des intuitions. Et du coup, si après, quand on connaît bien la pièce, on nous plonge dans une nouvelle pièce, qui est supposée lui ressembler un peu à la première, eh bien, les intuitions qu'on a développées dans la première vont permettre d'avancer un peu plus vite dans la seconde. Voilà. Mais par contre, si on nous plonge dans un nouveau monde, il faut repartir à zéro. Mais nos façons de travailler en tant que mathématiciens sont peut-être en train de complètement changer avec toute cette intelligence artificielle dont on entend tant parler. mais surtout qui est de plus en plus présente, en fait. En fait, en quelques mois, je peux dire que c'est assez stupéfiant de voir l'importance qu'elles ont pris, enfin, je veux dire, dans nos vies de chercheurs en mathématiques. Enfin, je ne parle pas dans la vie de tous les jours. Je vois, en fait, de nombreux collègues qui commencent à les utiliser au quotidien. Et comme ces outils fonctionnent de manière radicalement différente de la nôtre, on ne peut pas exclure que ces IA nous aident à développer de nouvelles intuitions sur des problèmes spécifiques. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que la façon dont on a de créer nos intuitions depuis toujours, si je veux, va peut-être complètement changer avec ces nouveaux outils. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'outils nouveaux qui ont un potentiel potentiel et un impact possible sur notre façon de travailler, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est trop tôt pour le dire. Et puis surtout, je ne sais pas si vraiment on doit se réjouir de tout ça ou être un peu effrayé. Quoi qu'il en soit, chaque jour qui passe, ça me semble de plus en plus difficile de les ignorer. Et bah d'ailleurs, je pense que c'est un peu pareil dans le champ des sciences humaines, j'imagine. Je ne sais pas comment les philosophes les utilisent. Enfin, je serais vraiment curieux de savoir et j'espère qu'il y aura rapidement des échanges entre scientifiques.
Je peux pas trop parler pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ses débuts, ce qu'on a constaté, c'est que l'IA générative était assez mauvaise en philosophie. Mais bon, on sait qu'elle risque d'apprendre rapidement, et sans doute elle a déjà fait des progrès énormes depuis ses débuts, en philosophie en tout cas. Les principaux problèmes sont qu'elle manque vraiment, cruellement de rigueur, elle peut se tromper d'auteur, de citation, de définition assez facilement, et c'est sans doute lié avant tout aux bases de données qu'on lui donne, évidemment. Je pense qu'une bonne expérience à faire, ce serait de donner à une IA seulement le catalogue philosophique, par exemple, d'une bibliothèque, comme la bibliothèque Diderot, et de voir ce que ça donne sans la laisser piocher dans d'autres sources, sans la laisser se disperser. Parce qu'en soi, ça pourrait gagner énormément de temps pour synthétiser des ouvrages ou pour trouver des références précises. C'est un outil qui, sans doute, serait très précieux de ce point de vue-là. Après, c'est tout dépend de ce qu'on lui donne à manger, entre guillemets.
Ouais, je voudrais dire que je me suis déjà posé ce genre de questions, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, un tel catalogue ne serait pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut des masses de données, quoi. Et donc, parce que justement, moi aussi, j'ai demandé, tiens, je voudrais lui faire lire que certains volumes de maths, tout ça. Et c'est ça qu'on m'a rétorqué. On m'a dit, mais en fait, il faut des volumes de données monstrueux. Et donc, c'est pas si simple que ça. Mmh. Et sur ce que vous disiez là, juste au début, nous, on a aussi la même chose, c'est quand ces IA génératives sont apparues, disons, à l'été 2023, en maths, bon, tout le monde rigolait, parce qu'elles disaient n'importe quoi. Mais à l'été 2024, déjà, on rigolait moins, parce que le truc, ça avait gagné, je crois, des médailles d'argent aux Olympiades. Et puis à l'été 2025, on rigole plus du tout, quoi, parce que le truc, il gagne des médailles d'or, quoi. Donc, c'est stupéfiant, en quelques mois, la vitesse à laquelle le truc évolue. Donc ça pourrait devenir...
Oui, c'est sûr. Mais je pense aussi que du fait de précisément les bases de données, etc., l'IA, elle fait un peu que recycler des idées déjà vues. Et donc elle n'est pas forcément très douée pour penser à elle-même. Je ne veux pas être trop ironique, mais je trouve qu'elle a tendance à sortir des idées qui sont un peu tièdes, souvent assez banales. Du fait même que l'IA, entre guillemets, nage assez rapidement dans le vague, le flou, le général. Là où ce qui fait qu'une réflexion philosophique peut devenir intéressante, c'est précisément quand elle devient précise, qu'elle gagne en rigueur, etc. Mais je pense que sur la question des machines et de l'IA, on aura largement l'occasion d'en rediscuter dans un épisode dédié.
Ah bah j'espère.
deuxième pan de cet épisode sur l'intuition, vous l'aurez peut-être deviné, sera consacré à l'intuitionnisme. Pour le présenter brièvement, en philosophie, l'intuitionnisme est cette doctrine qui a accordé à l'intuition une importance essentielle dans le processus de connaissance. En mathématiques, l'intuitionnisme recouvre ce courant qui s'oppose au formalisme, c'est-à-dire une théorie selon laquelle les mathématiques ont recours aussi à l'intuition et non seulement à l'hypothèse et à la déduction. Mais bon, en disant cela, on ne dit pas encore grand-chose puisqu'on a vu toute la difficulté qui résidait dans la définition de l'intuition. Plus précisément, qu'est-ce que ce courant recouvre dans l'histoire des mathématiques ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'intuitionnisme ?
Alors, en fait, pour un mathématicien, quand on pense à intuitionnisme, on pense tout de suite à Brouwer. Brouwer, donc un mathématicien du début du XXe siècle, proposait un peu une position un peu radicale, j'aurais envie de résumer ça comme ça, un peu radicale sur la nature des maths, dans la mesure où il ne faudrait considérer que les objets qu'on peut vraiment construire. Or, en maths, on est habitué à démontrer l'existence d'objets qu'on ne construit pas explicitement. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit exemple que j'avais lu dans un livre que j'aime beaucoup, de Gilles Dowaigue sur les métamorphoses du calcul. Et donc, il prenait un exemple de train. Donc, plus ou moins, l'exemple, c'est vous avez un train qui part, disons, de Paris, et puis qui va jusqu'à Moscou. Et puis, il dessert un certain nombre de gares. Et disons que la première gare, c'est Strasbourg. Puis ensuite, la deuxième, c'est Vogel. Puis la suivante, c'est Berlin, etc. etc. Et puis, Gilles racontait cette histoire. Dans votre compartiment, vous trouvez un petit mot doux d'un admirateur, d'une admiratrice, comme vous voulez, qui vous donne rendez-vous dans la dernière gare en France, où s'arrête le train. Alors, la question, c'est comment démontrer que cette gare, elle existe. Alors, c'est facile. Vous dites, comme vous savez que Strasbourg est en France et que Berlin est en Allemagne, de deux choses l'une, ou bien cette fameuse ville de Vogel, que personne ne connaît, est en France et c'est la dernière gare cherchée, ou bien elle est en Allemagne et dans ce cas, c'est Strasbourg, la dernière gare. Donc dans les deux cas, vous avez démontré qu'il existe bien une dernière gare en France où s'arrête le train. Le problème, c'est qu'elle existe, mais vous ne savez pas laquelle c'est, parce que personne ne sait vous dire si Vogel est en France ou en Allemagne, parce que personne ne connaît cette ville. D'ailleurs, c'est un mot que j'ai inventé. Donc pour Brouwer, il faut rejeter ce genre de démonstration. Tout simplement, une telle démonstration est non constructive, elle ne construit rien, donc il faut la rejeter. De l'autre côté, vous avez le courant formaliste, comme vous avez dit, dont le chef de file, disons, à l'époque, c'était Hilbert. Hilbert, qui a donc, ce formalisme où tout est déductif, et donc pour lui, il n'y a pas de problème à démontrer et à étudier des objets qu'on n'a pas construit explicitement, mais on peut sans problème parler de la dernière gare en France, puisqu'on a démontré qu'elle existe. On ne sait pas laquelle c'est, mais on peut en parler. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Jean Dieudonné, qui... Jean Dieudonné, c'est un mathématicien un peu plus récent, du milieu du XXe siècle, très, très influent, très important, qui n'était pas avare de bons mots, et qui comparait les intuitionnistes comme une sorte de secte qui pense encore que la Terre est plate. En tout cas, pour Brouwer, le formalisme remplace les mathématiques. Brouwer, il dit ça, il dit le formalisme, ça remplace les mathématiques par une sorte de manipulation de signes qui sont dénués de contenu intuitif. Et donc c'est de là un peu que vient la terminologie d'intuitionnisme pour ce courant. Et ces différents courants, donc le formalisme à la Hilbert, l'intuitionnisme à la Brouwer, donc sont apparus, comme je disais, au début du XXe siècle, au moment de toute cette crise sur les fondements des maths. Et je crois que Hilbert et Brouwer n'ont pas vraiment cherché à s'écouter les uns les autres. Les choses ont plus dégénéré entre eux. Ce qui fait que, c'est resté un peu... un peu comme ça. Et donc, il y a ceux qui sont partis dans un courant et l'autre dans l'autre. Mais en fait, je pense qu'à la fin, aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas beaucoup de platistes. mais qu'une attitude plus riche, si vous voulez, sur laquelle je pense que tout le monde se retrouve, c'est que bah, si vous pouvez construire l'objet, bah, c'est mieux, donc vous le faites. Et puis quand on ne peut pas, et bah, on se contente d'une démonstration abstraite et on continue d'étudier l'objet, quoi. Donc la dernière garce, même si je ne peux pas la citer, elle existe et je peux en parler, quoi. Donc voilà, mais disons que ce qui est, je voudrais peut-être terminer là-dessus, sur cette idée, ce qui est quand même intéressant de noter ces dernières années, c'est qu'il y a tout un engouement de la communauté mathématique pour ce qu'on appelle la formalisation des maths avec des assistants de preuve. C'est-à-dire que, vous savez, les démonstrations, on les écrit dans des articles, tout ça, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et on aimerait bien qu'en fait, une machine, un ordinateur, puisse relire la démonstration. Mais le problème, c'est que les démonstrations qu'on écrit ne sont pas suffisamment précises pour ça. On en discutait d'ailleurs un peu la dernière fois. Et en fait, ces assistants de preuve ont besoin qu'on détaille tout. Et en fait, quelque part, avec ces assistants de preuve, ça redonne une place un peu plus centrale aux démonstrations constructives. Mais bon, j'imagine qu'en philosophie, que les philosophes ont des choses à dire sur ces démonstrations non constructives, et notamment ce tiers exclu, ce principe-là que j'ai utilisé, qui affirme que toute proposition est soit vraie, soit fausse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative à ça, quoi. Et c'est ça qui est à l'origine des démonstrations non constructives.
Globalement, je pense que c'est des problèmes qui sont inclus dans un débat assez classique sur le réalisme, et ça va rejoindre la question générale du statut de la vérité. Si on considère que la vérité est indépendante de nous, dans ce cas, n'importe quel énoncé donné est soit vrai, soit faux, dans une alternative stricte, peu importe ce qu'on en est en mesure de savoir. Mais si, au contraire, on considère que la vérité dépend de ce que nous sommes à même de justifier, de ce dont on peut rendre raison, dans ce cas, certains énoncés peuvent être un peu en suspens, ni vrai ni faux, tant qu'on ne les a pas prouvés comme tels. Et je pense que ça revient un peu à la question de la preuve qu'on avait évoquée la dernière fois. Donc voilà, je pense que c'est le débat philosophique global dans lequel ça peut prendre place.
Ok, cool.
Chers auditeurs, chères auditrices, cette émission touche à sa fin. Merci Aurélien.
Ben merci Smila.
On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Maths et de mots à retrouver sur transistor.fr.